te bénissons pour cette parole que tu nous donnes de partager ensemble. Et nous croyons que tu es le Dieu d'amour qui nous guide au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes c'est la dernière réunion du soir. Et pour ceux qui sont en contact avec nous sur le net, nous vous saluons précieusement et nous vous bénissons. Je me suis régalé lors de ces réunions de la communion fraternelle avec les uns et les autres. Et je me suis laissé enseigner moi-même sur ces vérités que je connaissais, que j'appliquais, mais chaque fois que je les enseigne, cela devient plus réel dans mon cœur. Cela affermit mon âme. Cela me donne encore de savoir que la parole de Dieu est vraie, elle est réelle. En particulier, ce que nous voulons voir et que nous avons vu hier soir et nous allons compléter ce soir, ces choses-là, les chrétiens veulent beaucoup de signes, de prodiges et de miracles dans leur vie. Mais ce sont les enseignements du matin qui nous prédisposent à ces choses. Lorsque notre esprit, notre âme et notre corps sont en harmonie, lorsque notre âme qui s'oppose donc au progrès de l'esprit est transformée, alors ces choses que nous désirons, auxquelles nous aspirons, commencent à devenir une réalité. Donc c'est pourquoi les enseignements du matin sont très importants et souvent nous négligeons ces choses, nous voulons produire de grandes choses, mais sans au préalable préparer notre être tout entier. Alors hier soir, nous avons vu le premier des miracles et nous avons dit que nous devons tirer des leçons de ce premier des miracles que Jésus a réalisé et nous avons dit que ces miracles-là ont un but à double niveau. Premièrement, que la gloire du Seigneur soit manifestée. Et deuxièmement, que horizontalement, les gens arrivent à croire en lui et qu'ils sachent que c'est ce qu'il dit est réel. Et nous avons vu avec ce premier des miracles, nous avons vu effectivement que Marie avait une connaissance spéciale de Jésus, non pas parce qu'elle a déjà vu Jésus faire des miracles, mais à travers les paroles de l'ange Gabriel qui parlait de cet enfant, et ensuite à travers les paroles de Siméon et de Anne, la prophétesse qui ont reçu le bébé dans leurs mains, qui ont parlé de cet enfant-là, et à travers aussi ce que Jésus a dit à l'âge de 12 ans, quand il a dit « il faut que je m'occupe des affaires de mon père », alors Marie a regardé attentivement cet enfant grandir et elle a eu la révélation lorsque le temps est venu où en assistant à ce mariage à Cana en Galilée, quand elle a vu le besoin réel qui était là, elle est allée directement vers Jésus et l'a prié simplement d'intervenir pour sauver le foyer dont Dieu même est l'auteur. Car le mariage vient de Dieu et ce mariage qui était en panne, donc, l'auteur du mariage est seul capable de réparer notre mariage. Et alors, Jésus a fait ce miracle-là pour nous apprendre que les choses qui semblent être impossibles aux humains, que les choses qui sont fades dans nos vies et qui sont comme l'eau inodore, incolore, et ces choses peuvent être changées en un vin trépillant, un vin qui vraiment bouleverse nos vies. Alors, c'est une transformation que Dieu peut opérer dans nos vies. Et ce soir, nous allons continuer dans cette même pensée, mais ce soir, nous disons, Seigneur, que ta gloire se manifeste dans ma vie et dans ma famille et autres. Ce que nous voulons voir ce soir, et encore là, nous allons prendre des textes pour montrer que tout miracle, tout signe et prodige a un but premier, c'est la gloire d'abord de Dieu. Ne mettons pas l'accent sur nos besoins. Ne disons pas, j'ai un problème, il faut que Dieu fasse ceci ou cela. Nous devons penser pour d'abord, est-ce que si Dieu résout mon problème, est-ce que la gloire sera pour lui? Et beaucoup de gens ne sont pas intéressés à cela. Ils sont intéressés parce que moi, je veux que Dieu réponde à ma prière. Mais ce qu'il en est de la gloire de Dieu, ce n'est pas leur préoccupation majeure. Alors, et c'est pourquoi Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire avec les gens. Si Dieu intervient dans ma vie, c'est tout juste pour que je puisse continuer à faire ce que je veux. Et parfois, Dieu se retient parce que mon frère, ma sœur, parce que sa gloire n'est pas partagée. Et pour cela, nous allons lire deux textes ce soir. Nous allons parler de deux histoires de la Bible de façon parallèle pour que nous puissions comprendre où nous voulons aller. Le premier texte, nous serons dans l'évangile de Jean en particulier, Jean chapitre 9. Jean 9, du verset 1 à 3. Et nous allons lire ce premier texte et ensuite nous lirons le second texte dans Jean 11, que vous connaissez si bien. Les deux ne sont pas loin l'un de l'autre. Dans Jean 9, verset 1 à 3, il est écrit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Alors, ses disciples lui firent cette question. Donc, les disciples sont tournés vers Jésus dès qu'ils ont su que cet homme-là était né aveugle. Ils ont suscité tout de suite des questions doctrinales, des questions théologiques, des questions de philosophie. Et ils ont dit, ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Voici un bon sujet de philosophie en classe terminale. Puisqu'il n'y aura pas de réponse. Vous voyez bien ? Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est très philosophe, qui ne se penche pas sur les choses de Dieu, il va vous poser la même question. Il dit alors, quelqu'un qui est né aveugle, il a péché ou ce sont ses parents qui ont péché ? Qu'allez-vous répondre ? Non, vous n'avez pas de réponse parce que les disciples n'ont pas de réponse. Vous n'en avez pas vous aussi. N'essayez pas de murmurer inutilement. Parfois, vous mettez se taire et écoutez la suite. C'est mieux. Ce que vous allez dire, ça ne tient pas. Si les disciples qui étaient auprès de Jésus n'ont pas eu la réponse, et la réponse que Jésus va donner est à côté complètement de leur pensée. Ils ont cru que Jésus allait dire, cela vient des péchés ancestraux. Ça, c'est une malédiction générationnelle. Ça commence à vous parler, non? Ça ne vous interpelle pas, ça? Quand nous ne comprenons pas les choses, nous disons malédiction générationnelle. Ce sont ces livres qui sont à la mode maintenant, dans le milieu chrétien. Ce sont les problèmes, les maladies, ce sont les malédictions ancestrales. Ce sont les liens générationnels. Mais Jésus a un cas ici, il ne parle ni de liens générationnels, ni de malédictions générationnelles, frère. Suivons le maître et notre vie sera facile. Amen. Si nous compliquons, à quel moment de la génération de quelqu'un vous savez exactement ce qui s'est passé? Vous allez me dire, Lévitique en parle, dixième, tant, ok, mais de quel côté? De la mère ou du père? Et si c'est du côté de la mère, maintenant il faut que tu remontes encore avec la mère, à quelle génération? Tu vois, ce sera un imbroglio terrible. Jésus n'a pas répondu comme cela. Jésus est simple. Vous voyez? Nous aimons aller sur les chemins dont l'issue, c'est une impasse. Et si Jésus avait essayé de discuter ici, les gens allaient venir les voir en train de discuter, lui et ses disciples, et tout le monde serait mal à l'aise. Jésus répond simplement, ce n'est pas, il dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Le problème n'est pas là. Il dit, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifeste en lui. Voici la réponse du Seigneur. C'est afin, le but. N'essayez pas de discuter. Quelqu'un qui est né aveugle. C'est sûr qu'il est né aveugle. Il n'a même pas vécu d'abord Et il est déjà né aveugle. Il ne peut pas pécher. Le Seigneur dit, alors, dans chaque situation, ne nous précipitons pas d'abord de chercher les causes. Quand nous ne comprenons pas des situations, cherchons à savoir, est-ce que le Seigneur peut-il tirer une gloire de cette situation-là pour que sa gloire se manifeste et que des hommes et des femmes puissent croire en lui? Si nous prenons ce chemin, ce sera plus facile de progresser que si nous commençons à savoir si son ancêtre a fait tel péché, et on va entrer dans des imbroglios qui ne vont jamais finir et on sera nous-mêmes troublés. C'est ce que Jésus a dit. Deuxième texte, avant de continuer, on voit ici, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Le Jean 11, ça c'est avec un aveugle inconnu, dont on ne dit pas son nom. Un homme que Jésus a rencontré comme cela, et tout juste sur cette route-là. Allons voir maintenant, dans le cas des amis de Jésus, des gens qui semblent être des amis de Jésus, des gens qui ont l'habitude de recevoir Jésus chez eux, Lazare, Marthe et Marie, des gens qui ont l'habitude d'accueillir Jésus dans sa maison, dans leur maison du moins, et qui lui font du bien. Et la Bible dit ici, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Vous voyez bien? Elles veulent le manipuler. En disant, « Celui que tu aimes est malade. » Donc cela veut dire quoi? Alors, si tu l'aimes vraiment, tu dois venir tout de suite. Dis seulement, « Lazare est malade. » Pas besoin de dire, puisque c'est leur ami. Pas besoin de dire, « Celui que tu aimes est malade. » Nous avons un langage, nous voulons parfois manipuler Dieu. Oh, cet homme est consacré, Seigneur, tu sais bien, c'est lui qui fait tout à l'église. Et il est malade maintenant, Seigneur, ça veut dire quoi? Seigneur, tu vois, si tu ne le guéris pas, ce n'est pas normal. C'est lui qui fait tout à l'église ici. On ne peut pas manipuler Dieu, arrêtez de le manipuler. C'est comme un enfant, quand un enfant de 2 ans court chez sa maman, l'enfant veut des bonbons. Il dit, maman, oh, tu es charmante, tu es tout cela. La maman dit, petit, reste calme, tiens les bonbons. Ah oui, maman, merci. On ne peut pas manipuler Dieu. Nous ne pouvons pas manipuler Dieu, frère. Et voici la réponse de Jésus. Là encore, même avec ses propres amis. Ses propres amis, il leur répond ceci en disant, après avoir entendu cela, Jésus dit aux envoyés, ils ont envoyé quelqu'un, il leur dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. L'envoyé retourne et il dit à Marie, voilà la phrase mystique, mystérieuse qu'il nous a dite, que cette maladie n'est pas la mort et qu'elle est pour la gloire de Dieu, c'est afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Les gens ont dit, ah bon, tu es sûr que ça qu'il t'a dit? Il n'a pas dit qu'il est en train de venir? Non, 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 il n'a rien dit. Il n'a pas dit quand est-ce qu'il va venir? Non, non, il n'a rien dit. Il répète encore ce qu'il a dit. Il a dit que cette maladie n'est pas la mort et qu'elle est pour la gloire de Dieu et que le Fils de Dieu sera glorifié par elle. Quel est ce langage? Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une réponse à. La réponse est claire. Elle est claire. Quelle que soit l'issue de la maladie, dit Jésus, si la maladie aboutit à la mort, la gloire ne reviendra pas à la mort. Même dans la mort, la gloire va revenir à Dieu. Simplement, ça veut dire, ne vous inquiétez pas, quelle que soit la chose qui va arriver à Lazare, Lazare reviendra à la vie, simplement. Simplement. Elle n'appartient pas, elle n'est pas à la mort. C'est-à-dire, elle va aboutir à la mort, mais la mort n'en tirera pas une gloire. Dieu va en tirer une gloire et le Fils de Dieu, plus tard, il va rappeler ça à Marie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Mais il a dit à Marie quand par l'envoyé, puisqu'il n'a jamais vu Marie, il n'a plus revu Marie. Je t'avais déjà dit, il y a 4 jours, quand vous avez envoyé le monsieur, je lui ai dit de vous dire que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ah, mais quand il est venu, il a dit une phrase qu'on n'a pas compris. Il dit, mais analysez la phrase, vous allez comprendre ce que je vous dis. La maladie n'est pas la mort. Elle va aboutir à la mort. Elle n'appartient pas à la mort. Elle sera pour la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons voir les miracles, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, notre problème, ce n'est pas de se précipiter d'abord. J'ai cherché à savoir qu'est-ce que Dieu veut, quelle est la gloire que Dieu peut tirer dans cette situation. Se précipiter tout de suite pour des réponses, ça peut nous nuire. Quelle est la gloire? Si je dois passer par une opération et que Dieu en tire une gloire en me rétablissant rapidement, c'est bon. Si je dois rester, qu'on prie seulement pour moi et que Dieu tire sa gloire, c'est bon. Donc, je ne cherche pas à précipiter les choses, je cherche à savoir quelle gloire Dieu peut retirer de cette situation que je suis en train de vivre. Il dit à Cana, il a manifesté sa gloire. Donc, dans chaque circonstance de la vie, qu'elle soit une circonstance spirituelle, physique, morale et financière, le croyant doit d'abord savoir quelle gloire Dieu va tirer de cette situation. Quelle est la gloire? Premièrement, quelle est la gloire? Non pas, qu'est-ce que je peux recevoir de ça moi-même? Quelle est la gloire que Dieu peut en tirer? Ceux qui n'ont pas ça, plein de gens, 10 lépreux sont venus vers Jésus. Ces 10 lépreux sont venus, Jésus leur a dit simplement une parole aussi qui choque. Il dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Mais ça, c'est les envoyer à la mort. Pendant la Bible, il dit que tout lépreux qui n'est pas guéri physiquement et qui s'en va au temple et trouver, on va le lapider. Et voici des hommes qui, la guérison physique n'est pas manifestée, Jésus leur dit d'aller se montrer au sacrificateur. Et ils prennent la route du temple. Et sur le chemin, les 10 sont guéris. Il y a un seul qui revient pour donner gloire à Dieu. Et Jésus dit, et les 9 autres, n'ont-ils pas été guéris? Il dit, oui, ils ont été guéris. Il n'y a que ce seul étranger. Vous entendez ce que Jésus dit? Tous ceux qui ont été guéris là, il y avait des juifs parmi, qui sont des croyants, qui savent qu'on doit donner gloire à Dieu. Mais ils ont oublié. Et il n'y a que ce seul étranger qui soit revenu pour donner gloire à Dieu. Dans chaque circonstance, bien-aimés frères et sœurs, cherchez d'abord à voir qu'est-ce qui peut revenir à Dieu. Quelle est la gloire que Dieu peut tirer de cette situation? Dans sa réponse. Et vous allez vous réjouir, vous allez apprendre à vous réjouir des réponses de Dieu. Si la réponse est tarde, vous allez être tranquille, vous savez que le Seigneur va intervenir. Si elle est rapide, vous n'allez pas aussi vous précipiter pour dire que c'est votre foi qui a fait quelque chose. Combien de gens ont été délivrés, guéris, ils ne sont plus revenus à l'église? Combien de gens nous connaissons qui ont reçu des réponses extraordinaires, qui ne sont plus venus à l'église, parce qu'ils ne sont jamais venus pour chercher la gloire de Dieu. Ils sont venus que Dieu les libère d'une situation une situation difficile. Et quand ils ont reçu ça, ils sont partis. Alors, nous devons développer la mentalité. C'est pourquoi nous avons dit les matins, si nous ne développons pas cette mentalité et du surnaturel, cette mentalité d'action de grâce, cette mentalité de reconnaissance, nous serons des chrétiens qui tout le temps, comme les Israélites, ont reçu, reçoivent, mais jamais ne glorifient Dieu. Ils ne sont que simplement tel problème, chaque fois, Seigneur, il nous manque l'eau de Mara, l'eau est amère, il nous manque de la nourriture, et ils ne sont pas reconnaissants. Dieu est étonné, Dieu dit à Moïse, mais ton peuple là, tu ne le comprends pas, je les délivre, ils ne me donnent pas gloire. Tout le temps, ils sont en train de se plaindre. C'est des nouveaux problèmes qui sont en train de me soumettre. Mais pour les anciens problèmes qui ont été résolus, ils ne sont jamais venus rendre grâce à Dieu. Combien d'entre nous avons été touchés par Dieu depuis que nous sommes chrétiens. Mais combien d'entre nous avons eu le courage de venir voir nos pasteurs, nos anciens pour dire, est-ce que vous ne pourrez pas me donner 5 minutes pour que je donne gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait dans notre vie, dans notre famille? Plein de chrétiens sont assis, ils n'ont jamais rendu grâce à Dieu. Dieu a tellement fait de grandes choses dans leur vie. Ils n'ont pas entretenu cela par l'action de grâce. Ils ne savent pas que le témoignage et l'action de grâce permettent à votre foi de s'élever et permettent que Dieu puisse faire d'autres grandes choses dans votre vie parce que vous êtes quelqu'un de reconnaissant. Et la loi de la reconnaissance est une des lois extraordinaires dans la Bible. Il y a la loi de l'honneur, il y a la loi de la reconnaissance, il y a la loi de l'amour, il y a la loi des lieux, il y a la loi... C'est des lois spirituelles. Donc, à cet égard-là, bien-aimés frères et sœurs, donc dans ces deux cas, l'homme naît aveugle, et dans le cas de Lazare, Dieu a un seul but, que sa gloire soit manifestée. Avec ses amis, Marthe, Marie et Lazare, il n'a pas dit à cause de notre amitié. Il dit non. Il dit toujours, sa gloire doit être manifestée. Avec cet aveugle inconnu, il a toujours gardé le même principe, que sa gloire soit manifestée. Avec un pasteur, il va rester toujours la même chose. Pasteur, est-ce que tu veux que ma gloire soit manifestée? Ce n'est pas parce que je suis un pasteur que Dieu me chouchoute. Dieu ne chouchoute pas des gens. Il n'a pas chouchouté à Adam. Quand Adam a fait voler la gloire de Dieu, Dieu l'a mis de côté. Parce que Dieu et sa parole sont un. Ne touchez jamais à la gloire de Dieu. Sa gloire lui revient. Et la bénédiction revient à vous en retour. La guérison vous appartient. La délivrance vous appartient. Mais la gloire lui appartient à lui. Si vous échangez, vous avez des problèmes. Développons cette mentalité d'hommes et de femmes qui aiment être reconnaissants à Dieu en toutes choses, qui aiment rendre grâce à Dieu en toutes choses, qui glorifient le Seigneur pour les choses qu'il fait dans nos vies. Alors, quand nous cherchons d'abord la gloire de Dieu, la deuxième chose, quand nous avons vu cela, la deuxième chose, nous devons nous attendre, lorsque nous sommes dans une situation, nous devons, si nous prions, nous devons nous attendre et laisser Dieu opérer comme il veut opérer. Et les méthodes que Dieu va utiliser, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et souvent, quand Dieu utilise des voies pour atteindre sa gloire, notre intelligence, souvent non renouvelée, s'oppose aux voies de Dieu. Et nous allons voir quelques méthodes ici, quelques méthodes que Dieu utilise, les voies que Dieu utilise. Pour cet homme qui est né aveugle, et comme pour Lazare, Jésus va utiliser, regardons avec cet homme qui est né aveugle, on revient à Jean 9, et on va voir maintenant le verset 6. Quelle est la méthode que Jésus va utiliser pour guérir ce malade-là? Après avoir dit cela, Jésus cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Quelle est la voie, la méthodologie de Jésus? Elle varie selon ce qu'il a entendu chez le Père. Et très souvent, nous laissons avoir, parce que la manière que Dieu a choisie pour intervenir ne correspond pas à notre mentalité, à notre intelligence des choses de Dieu. Et nous passons à côté très souvent des résultats que Dieu a voulu manifester. Pourquoi a-t-il craché? Pourquoi il a pris Jésus? N'y a-t-il pas une voie hygiénique, une voie qui donne à l'homme la dignité? Mais est-ce que pourquoi? Mais pourquoi tu veux abaisser la dignité de cet homme? Il est déjà aveugle, il souffre déjà. Maintenant que tu fasses de la boue avec ta salive et que tu prennes cette boue pour badigeonner son visage et lui dire, ah mais Seigneur, mais ce n'est pas digne, ce n'est pas... Voilà le problème, la mentalité de beaucoup de gens. Mais si c'est comme ça que Dieu doit me guérir, ah non, je refuse. Donc, les méthodes, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les voies de Dieu pour bénir quelqu'un, deux personnes, sont des voies différentes. Mais son but toujours, c'est la gloire. Il va bénir cette personne-là en prenant cette voie, et vous, il va vous bénir de cette manière-là. Mais le but final, les deux se retrouvent où? La gloire de Dieu. Il ne va pas bénir tout le monde de la même manière. Dans une même famille, il peut guérir un enfant instantanément et il va permettre que l'autre enfant passe peut-être un mois, passe par une opération avant de guérir. Mais de toute manière, on savait qu'il n'y a pas de guérison sans cette opération-là. Mais la gloire revient à qui? Toujours à Dieu. Ne dites pas à Dieu, vous avez guéri mon enfant hier instantanément, vous devez guérir le second instantanément. Vous ne pouvez pas lui imposer votre manière de faire. Et c'est pourquoi nous manquons souvent les voies, les miracles, les signes, parce que nous voulons imposer à Dieu nos manières de voir. Et ici, il dit, il cracha, il fit de la boue et il badigeonna. Une autre méthode que Jésus, dans un autre passage, quant à Lazare, ce sont ces paroles mystérieuses qu'il a dit. Là-bas, il n'a rien fait, sauf qu'il dit simplement, cette maladie n'est pas la mort. Voilà ce qu'il a dit. La réponse, là-bas, c'est simple. Mais par contre, avec la veuve, le fils de la veuve de Naïm, là, il est parti jusqu'au cercueil de l'enfant. Il a touché le cercueil et il a parlé à l'enfant. Et le jeune homme est sorti. Avec la fille de Jaïrus, il n'a pas donné une parole à Jaïrus. Il a accompagné Jaïrus. Et quand Jaïrus, on est venu lui dire que sa fille est morte, de ne plus importuner le maître, Jésus l'a fortifié en lui disant, crois seulement, ne crains point, crois seulement. Et quand ils sont arrivés chez lui, Jésus n'a pas guéri la petite fille, n'a pas ressuscité la petite fille, comme il a l'habitude de faire avec la veuve de Naïm. Non, ici, Jaïrus était chef de la synagogue. Et les gens pleuraient. Il a fait sortir tout le monde et il a fait entrer dans la salle la petite fille, donc Pierre, Jean et Jacques, et les deux parents, parce que les deux parents croient, et lui-même. L'atmosphère, c'est important. L'atmosphère des miracles est très importante. L'atmosphère des miracles est toujours provoquée par la parole et la présence du Seigneur, par le Saint-Esprit, et les personnes qui sont autour de vous. Parce qu'une seule personne peut paralyser la manifestation de la puissance si elle ne croit pas. Donc Jésus, ici, dans ce cas-là, il a mis tout le monde au dehors. Il a mis au dehors les moqueurs. Et dès qu'il a dit qu'il va aller réveiller la fille, tout le monde, des gens qui pleuraient, se mettent à rire, à se moquer de lui. Alors comment ces gens peuvent-ils être à côté de Jésus? Et il a touché la fille maintenant. Quand il a vu que l'atmosphère de miracle, l'atmosphère de la maison était remplie, saturée, non seulement de la présence du Saint-Esprit et de la foi, il a dit à la jeune fille, Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. Et elle s'est levée. Ce sont des choses à l'école des miracles et de la foi, à ce que nous appelons l'institut pratique de prière, d'évangélisation que nous avons. Nous réunissons les jeunes qui évangélisent le samedi matin. Je leur enseigne ces principes-là. Et ensuite, on les envoie sur le terrain. Je leur enseigne ça. Le miracle doit être enseigné. La guérison doit être enseignée. On ne peut pas aller comme cela à tue-tête, faire les choses, ils vont faire des scandales. Quand ils sont enseignés, jeunes filles et garçons s'en vont, nous voyons des miracles qui ne se produisent même pas avec nous-mêmes. Parce que ces jeunes-là sont tellement zélés, sont tellement remplis, et ils s'en vont, on voit les résultats. Quand la première fois on a fait l'année de l'invasion, on les a envoyés dans les villages environnants, nous avons eu 17 000 dits convertis par ces jeunes gens. 17 000 dits convertis. Et nous avons ouvert des églises. Nous avons plus de 200 églises au Burkina, 33 églises dans la capitale, plus de 200 églises au Burkina, 8, 12 églises en Guinée-Conakry, 12 et 15 en Côte d'Ivoire, 3 au Bénin. Nous avons ouvert des églises partout actuellement en appliquant simplement ces principes. En enseignant ces jeunes gens, ces enfants, en les faisant asseoir, en leur ouvrant la Bible, en leur montrant comment créer l'atmosphère des miracles. Comment s'attendre à Dieu. Comment donner la gloire à Dieu. Et non pas des gens qui s'en vont avec une foi pour faire des miracles. Parce que la foi seule ne peut pas faire des miracles. Dieu est l'auteur de la foi. Dieu est l'auteur du miracle. Il faut d'abord s'adosser sur Dieu. Et ensuite, il faut chercher la gloire de Dieu. En ce moment-là, Dieu va opérer. Mais ma foi, toujours, je vais guérir les gens. je cherche à m'élever. Dieu n'aime pas cela. Le miraculeux s'enseigne. La foi est enseignée. Vous voyez ici? Troisième méthodologie que je montre ici. Un jour, on est venu vers Jésus. À Pierre, du moins, il dit, mais ton patron, là, il ne paie jamais des impôts, lui. C'est un mauvais citoyen. Hein? Il ne paie pas des impôts. Il dit, ah bon? Il ne paie pas des impôts. Il dit, oui. Mais est-ce que lui, il doit payer des impôts à des hommes? Est-ce que le Dieu incarné doit payer des impôts à des hommes? Il dit, mais si je dois payer les impôts, je dois les payer avec quoi? Avec les pierres de César? Il a dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Alors il va donner, il va envoyer Pierre pour faire quelque chose qui va embarrasser Pierre, mais qui, comme Pierre c'est quelqu'un qui est intrépide, qui n'a pas peur, il dit, Pierre, tu es un pécheur? Il dit, oui. Tu as déjà péché ou à maison? Il dit, oui. Tu sais pécher aussi ou pas les filles? Il dit, oui. Il dit, bon, ok. Mais as-tu déjà fait une pêche miraculeuse? Pierre dit, non, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il dit, bon, ok, tu vas expérimenter ça aujourd'hui. Tu prends ton fil et ton hameçon et tu vas dans la mer. Dans la mer, il y a combien de poissons? Pierre dit, il y a des millions et des millions. Il dit, jette ton hameçon et le premier poisson qui va venir, ça veut dire quoi? Le premier poisson qui va venir, il va prendre l'appât. Tu le tires, tu ouvres sa bouche et tu vas trouver là-bas une pièce, non pas à l'effigie de César, une pièce sans marque. Pour montrer que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, le Père va m'envoyer de l'argent spécialement par Western Union Poisson. Pour payer mon impôt. Pour payer mon impôt. C'est ça que Pierre dit, mais Seigneur, depuis que je suis pécheur, mes parents pécheurs, mes grands-parents, nous n'avons jamais pêché un poisson avec de l'or. Et Jésus dit, mais c'est ça justement. N'essaie pas de réfléchir, vas-y. Et il s'en va, dès qu'il lance le fil et tire le premier poisson, il ouvre, il trouve donc la pièce. Mais une pièce qui n'est pas stampillée avec la photo de César, puisqu'elle ne vient pas de la banque centrale de César. Elle vient de la banque centrale du ciel. Mais ce sont ces choses-là qui craquent, qui font craquer toute cette intelligence que nous avons rendue tellement fermée et que nous avons ramené Dieu dans une petite bouteille et que nous ne pouvons pas le libérer parce que nous voulons dire à Dieu, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. C'est ça que Dieu a utilisé pour briser dans la pensée de Pierre tous les murailles qu'ils avaient élevées sur Dieu. Parce qu'Israël ne croyait plus à un Dieu surnaturel. Israël, maintenant, était dirigé par les pharisiens, les sadducéens et tous ces gens-là qui avaient une intelligence, une haute intelligence, une connaissance théologique. Mais ils ne voyaient plus de miracles ni rien. Pour ramener le miraculeux, pour ramener les signes, les prodiges, il a fallu d'abord que Jésus enseigne ses disciples par la théorie et la pratique. La théorie et la pratique. La théorie et la pratique pendant 3 ans à l'école du surnaturel. Il les a enseignés à la meilleure école biblique, l'école du surnaturel. Il a défié leur intelligence par des méthodes parfois incompréhensibles aux disciples. Il a défié leur intelligence en les envoyant, en les faisant faire des choses que même leur cerveau refusait de reconnaître que c'était normal. Vous ne pouvez pas voir régulièrement le miraculeux, les signes, les prodiges dans votre vie simplement en parlant, en criant. Il faut se soumettre aux méthodes de Dieu. Et quatrième, il y a tellement de choses, tellement... Si vous regardez la Bible, vous allez découvrir ces choses-là que vous avez lues, mais vous dites, mais pourquoi Jésus fait ça? Mais il est en train d'enseigner les gens. Il brise toutes ces murailles que nous avons élevées contre les choses de Dieu. contre la connaissance de Dieu. Par exemple, si on regarde dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Rois, chapitre 7, regardons ce texte-là, dans le deuxième livre des Rois, chapitre 7, déjà certains de l'Ancien Testament avaient bien compris cela. Et un jour, le roi d'Israël était en Samarie, et les Syriens sont venus entourer la ville de Samarie. Il est dit que personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait rentrer dans la ville. La ville a été assiégée pendant des mois, à tel point qu'une aile de pigeon coûtait des centaines d'euros. Une tête d'âne coûtait des milliers d'euros. À tel point qu'un jour, deux femmes ont osé, dans leur faim, elles ont fait cuire le fils d'un, ils ont mangé. Regardez la situation du peuple de Dieu. Alors, le prophète était assis. Quand le roi était en colère, s'est mis en colère, et il a demandé d'aller couper la tête du roi. Au moment où il venait, Dieu va envoyer une parole. Et il a fallu que Élisée lui-même, et vous entendez, le prophète qui était concerné par cette situation, le prophète qui était assis en Samarie, qui lui-même était concerné, il était dans la famine, brusquement Dieu va donner une solution. Si le prophète Élisée n'était pas habitué à la méthodologie de Dieu, il n'allait jamais croire à ça, il n'allait jamais le dire. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Élisée? Quand le roi est arrivé, il était appuyé sur les bras de son général, de son chef d'état-major particulier. Brusquement, le Saint-Esprit dit à Élisée, dit au roi. Voilà ce qu'on va lire. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un sicle et deux mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu du tic au tac. Il répond parce que son intelligence refuse. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée de lui dire, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Je vous pose la question. Vous croyez que c'est facile pour un prophète de dire ce qu'il a dit? Ça fait des mois et des mois. Tout le monde est en train de souffrir. Les gens sont en train de mourir dans la ville. La ville est assiégée. Les gens ont levé les yeux vers le ciel. Ils ont supplié. Rien ne se passe. Ils ont crié à Dieu. Pas de réponse. Brusquement, Dieu entre en scène. Le Saint-Esprit intervient et donne une parole à Élisée. Mais si Élisée n'était pas habitué, je vous pose la question, n'était pas habitué à la méthodologie de Dieu, parce qu'Élisée a vu tellement de choses que tout est possible pour lui. Parce qu'il a été entraîné à l'école du surnaturel de Élie, le prophète. Élisée a été un bon élève d'Élie, le prophète. Quand il a suivi Élie, le prophète, quand il a suivi cet homme-là, il a vu comment cet homme-là opérait dans le surnaturel de Dieu. Il a vu comment cet homme-là agissait avec la parole de Dieu. Il a vu comment cet homme-là, c'est ce que Jésus a fait à ses disciples. Élie avec Élisée, Moïse et Josué. Il y a une école du surnaturel. Il y a une école du miraculeux. Pourquoi Josué a osé faire mettre les pieds des sacrificateurs dans le Jourdain qui coulait, sachant qu'il y avait un danger que l'eau puisse emporter ces gens-là? Parce qu'il a vu Moïse devant la mer Rouge tendre simplement sa verge et la mer Rouge s'est ouverte. Il a été à l'école de Moïse. Élisée était à l'école de Moïse. Timothée était à l'école de Paul. Les 12 disciples ont été à l'école de Jésus. Nous devons être à l'école du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui est le professeur. Et il veut faire beaucoup de choses. Il est venu habiter en nous. Il veut nous habituer. Maman, grand-mère, tout le monde, il veut vous utiliser. Vous n'avez pas besoin d'être des pasteurs, des prophètes. Mais il peut vous utiliser dans l'intercession. Ouvrez vos yeux. Commencez à prier pour des nations. Il peut ouvrir vos yeux pour voir les réalités de ce qui se passe dans les églises qui sont attaquées. Des pasteurs qui sont attaqués, il peut le faire simplement si vous disposez à être à l'école du Saint-Esprit. Bon, Donc, pour Élisée, ce n'était pas un problème. Quand Dieu a dit cela, Élisée n'a pas réfléchi deux fois. Élisée n'a pas dit, mais il n'y a pas de fenêtre au ciel. C'est pourquoi l'homme, l'officier général, lui n'étant pas habitué au miraculeux, n'étant pas habitué donc aux signes et aux prodiges, il a ricané et il s'est moqué littéralement du prophète. Il dit, mais moi je suis un général. Quand une ville est assiégée, nous savons ce que c'est. Quand une ville est assiégée, on n'a pas de l'armée qui peut venir à notre secours. Il est impossible, nous allons mourir ici. Il dit, mais le seul endroit où il peut avoir des secours, c'est le ciel. Mais je ne pense pas que Dieu puisse faire des fenêtres au ciel. Si Dieu pouvait le faire, il y a longtemps, il l'aurait fait. Ah bon? Élisée dit, ah bon, monsieur, tu es israélite. Tu as grandi dans cette nation et tu ne crois pas au miraculeux. Il dit, tu le verras de tes yeux. Tu verras l'intervention de Dieu. Mais ça ne te sera pas profitable. Car tu ne veux pas donner gloire à Dieu. Tu ne veux pas donner gloire à Dieu. Ça, c'est les méthodologies de Dieu. Les méthodes, les voies et moyens que Dieu utilise pour nous enseigner, pour nous aider. Et quand j'étais converti, je remercie le Seigneur, je suis tombé sur un pasteur qui, d'abord, n'était pas un ecclésiastique, un homme de religion. C'était un ingénieur météorologue qui a été un Français qui était en service donc au Maroc, et que Dieu l'a sauvé là-bas, et Dieu s'est révélé à lui, et Dieu a commencé à l'utiliser. Donc c'était un simple laïc qui croyait à la science, qui croyait à la météo, il croyait à ces choses-là, et quand Dieu est intervenu dans sa vie, Dieu l'a visité, mais pour lui, l'intervention miraculeuse de Dieu n'était pas un problème, puisqu'en tant que météorologue, il a vu beaucoup de choses, il pouvait annoncer aux gens que dans 3 jours, il y aura la neige, il y a la neige, il est habitué à ça. Donc tout de suite, il a dit, mais si c'est pour les miracles, c'est sûr. Et c'est là-bas que Dieu l'a appelé. Ensuite, il est venu en France, il est retourné. Quand Dieu l'a appelé, il a donné sa démission. Ils l'ont envoyé dans plusieurs villes du sud-ouest. Et ensuite, en 73, il est venu à Toulouse pour remplacer M. Roux, qui était un des responsables de l'Assemblée de Dieu de France. Et c'est dans cette église-là que moi j'ai été converti. Cet homme nous amenait, écoutez-moi, dès que j'étais converti le dimanche suivant, on était dans les rues pour aller évangéliser avec des traités. Dans les marchés forains qui sont dans la ville de Toulouse. Ils nous amenaient là-bas, on avait un stand, on avait. Ils mettaient les livres et tout, on allait. Les gens nous insultaient, les gens se moquaient de nous. Mais on voyait aussi des gens qui se mettaient à genoux, qui étaient brisés, qui pleuraient, qui recevaient Christ. Donc ma foi de jeune converti, tout de suite, comme les jeunes disent, a été boosté. Ma foi a été saisie de voir que Dieu répond à la prière même du plus petit converti. Et je suis le dernier converti. Mais ce n'est pas fini. Il nous amène à l'université. Rangueil, ceux qui connaissent Toulouse. Mirail, il nous amène à ces universités, au campus. Et on partait parler aux étudiants. C'était difficile. En ce temps, les étudiants étaient très arrogants. Il nous amenait dans ces endroits. À tel point que quand nous avons commencé à voir les résultats dans l'église, quand nous avons vu les nouveaux convertis venir à l'église, nous n'avions même plus peur à l'université de témoigner aux gens. Et à chaque réunion d'évangélisation qu'on faisait, le lundi soir et le mercredi et le vendredi, le dimanche après-midi, parce qu'en ce temps, il y avait plusieurs réunions, j'ai amené des nouveaux convertis avec moi, des Africains, des frères arabes, des Français, tout le monde, je les amène avec moi parce que je n'avais plus peur. Converti d'un mois, je n'avais plus peur parce que le pasteur nous a introduit directement à l'école d'évangélisation. Ça a enlevé la peur de mon cœur. Et là, j'ai vu dans l'église une femme qui est morte d'un seul coup, une attaque cardiaque. Elle était assise, inculte, mourir. Tout le monde était effrayé. On a appelé l'ambulance. Et les docteurs sont venus voir, ils ont dit non, elle est partie. Le pasteur a dit, ne vous. Tout le monde, les gens ont commencé à crier. Il dit, calmez-vous. On a redressé la femme, on l'a mis sur la chaise. Il a commencé à parler. Il a parlé à l'esprit de mort. Quand l'ambulance arrivait, brusquement, la femme est revenue. Elle dit, pasteur, j'étais déjà très loin. Mais j'ai entendu une voix qui a parlé. Et j'ai écouté la voix du Seigneur. Le Seigneur a dit, non, le Seigneur est ton pasteur, te rappelle. Et il est revenu à la vie. Quand ils sont arrivés, ils l'ont pris pour aller voir. Ils ont dit, c'est pas possible. On a vu toutes ces choses-là. Alors, automatiquement, j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Un homme, il n'a pas peur, il agit comme cela. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout de suite, j'ai formé un groupe d'évangélisation à l'université. J'ai dit à quelques jeunes convertis avec moi là, venez, on va aller. Et derrière l'université des sciences sociales de Toulouse, il y avait ce qu'on appelait un hôpital qui était sur le pont suspendu. Ceux qui connaissent Toulouse, il y avait un hôpital des cancéreux, tout juste, même pas à 500 mètres de l'université. J'ai dit aux jeunes là, on va aller à l'hôpital là-bas. Nous sommes allés, on a frappé la porte. Ils sont venus ouvrir. Ils disent, qu'est-ce que vous voulez? Ils disent, non, nous sommes des jeunes chrétiens, nous on prie pour les malades. Les docteurs nous ont regardé, disent, mais vous priez pour les malades, pourquoi? Ils disent, non, on prie pour les malades. Il dit, ah bon? Bon, ils ont vu notre zèle, ils ont ouvert la porte. Là, il y avait la grande salle où il y avait beaucoup de malades, une grande salle. Ceux qui étaient démunis, les pauvres là, ils étaient alignés dans ça. Nous sommes allés sur chaque lit, prier, chaque lit, prier, chaque lit. On ne sait pas bien prier, mais ce n'est pas un problème. On a le cœur, on prie, on prie, on prie. Quand on a fini, il y avait un endroit qui était bien clôturé là. Mais il y a une odeur de puanteur qui sortait là-bas. Nous avons demandé, ils ont dit, ce sont les cancéreux au stade terminal. Et l'odeur de la chair humaine sortait. Mais est-ce qu'on peut rentrer? Ils disent, non, non, normalement ils sont sous morphine, ils sont sous... Ils disent, non, est-ce qu'on peut rentrer? Mais les infirmières qui nous ont vus vraiment zélés, ont dit, rentrez, mais ne faites pas trop de bruit. Nous sommes rentrés, on a posé les mains sur chaque malade, chaque malade, chaque malade, chaque malade. Et on a dit, amen, amen. Nous sommes allés. La semaine suivante, quand nous sommes venus, les infirmières ouvrent la porte. Ils disent, mais c'est vous les deux Africains là? Ils disent, oui, c'est nous. Ils disent, mais venez, venez, venez ici. On va dans l'endroit où il y avait ces gens-là. Tous ces hommes, les femmes, disent, quand vous avez prié pour nous, on a bien dormi, on n'a plus de douleur, on n'a pas vu des malades guéris. Je ne sais pas si des gens ont été guéris, mais j'étais jeune chrétien, mais ce qui fait que pendant un mois, quand on allait là-bas, on a vu la paix régner dans... Donc, les infirmiers et les médecins étaient contents de nous accueillir. C'est ainsi que ma foi a commencé à monter. C'est ainsi que ma foi a commencé à grandir. J'ai dit, mais Dieu peut m'utiliser, moi, un nouveau converti, nouveau baptisé du Saint-Esprit? Mais Dieu dit oui. Donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est ainsi que j'ai commencé à voir comment Dieu agit. Et ça m'a donné le courage. Dès que je suis arrivé au Burkina Faso, j'ai mis en place une équipe d'évangélisation. J'ai commencé à évangéliser à gauche, à droite, voir les malades guéris. J'étais directeur d'entreprise. Je n'ai pas attendu d'être pasteur. C'est pour vous encourager, frères, pour vous dire que c'est vrai que il y a des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Mais si vous décidez, vous-même, d'être à l'école du Saint-Esprit, de vous asseoir au pied du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous aider. Le Saint-Esprit, par exemple, m'a donné là, un jour, nous étions là, quand les dons du Saint-Esprit ont commencé, la parole de connaissance, j'étais en train de prêcher. J'étais directeur, on a ouvert une église, j'étais directeur, on a ouvert une église. On était autour de 500. Je prêchais, et le Seigneur me dit, c'est la première fois que je vois la manifestation de la parole de connaissance en plein culte. Il me dit, tu vois cette jeune fille qui est assise au fin, là, aux deux tiers. Il dit, oui, elle veut se suicider. Elle a dit que si moi je ne lui parle pas, dès que la réunion finit, elle va se suicider. Et elle a 20 comprimés de Nivaquine dans son sac. J'étais assis avec les jeunes pasteurs qui étaient derrière moi. J'avais là tellement l'assurance. J'ai dit, il y a un qui s'appelait Youssouf. J'ai dit, mademoiselle, vous avez 20 comprimés dans votre sac pour que personne ne puisse démentir et vous voulez vous suicider. Elle a commencé à crier. Il dit, allez-y ouvrir son sac. Quand on a ouvert, on a compté, il y avait les 20 comprimés. Elle était libérée. C'était un des moyens que Dieu a commencé à me convaincre qu'il est le Dieu du surnaturel. Il a commencé à me parler en ce moment-là. Ce que je vous dis ce soir, c'est pour terminer, c'est pour vous aider, c'est pour aider chacun d'entre nous, pour penser que tout le monde est éligible. Il n'y a pas de gens spéciaux, il n'y a pas de gens exceptionnels, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Tout le monde est éligible, et si nous croyons à ces choses-là, Une fois, j'étais dans un pays voisin, je prêchais, et en plein culte, dans une église assemblée de Dieu, le Seigneur me dit, il y a dans la ville une dame qui est arrivée avec un pain venant d'un pays voisin. C'est un des pains très gros, mais elle utilise des produits très dangereux et cancérigènes dans le pain-là. Et la dame est dans tel hôtel. Et vous savez, en Afrique, toutes les réunions de plus de 500 000 personnes, il y a les renseignements généraux. Comme partout, les renseignements généraux, ceux qui connaissent ça très bien. Ils sont là, ils écoutent tout, ils sont chrétiens et tout. Ils sont chrétiens ou crétins, je ne sais pas. Ils sont là. Ils sont là. Quand j'ai dit cela, tout de suite, il y a un qui était là sûrement, puisqu'ils m'ont fait le compte-rendu après, qui s'est levé pour aller vérifier si ce Burkinabé là n'est pas venu raconter des histoires. Comment vous venez dans notre pays et vous pouvez dire que dans tel hôtel, il y a telle femme qui est venue à du pain et ce pain est cancérigène et tout. Ils sont allés dans l'hôtel. Ils ont trouvé effectivement la femme. Ils ont pris le pain. Ils ont analysé. Ils ont trouvé que le pain était cancérigène. Et le ministre de l'Intérieur, qui a dit à un de mes amis, qui était directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, il dit, mais il est bon que ton ami vienne chaque fois au pays, parce qu'il va nous révéler les choses ici. Ils ont attrapé la bonne dame. Vous comprenez? Tout ça, j'étais converti il n'y a même pas 5 ans. J'ai commencé à réaliser que Dieu est vrai, que le Saint-Esprit est vrai. Ce que je vous dis là, c'est pour vous encourager, frère. Si dans notre vie, il n'y a pas le surnaturel, notre vie chrétienne est une vie monotone. Je n'ai pas dit que tous les jours il y a un miracle. Ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit ça. Il dit le miraculeux, ça veut dire qu'il y a des situations où le Seigneur intervient pour vous édifier, pour donner gloire à son nom et puis pour vous permettre de croire plus qu'il est vivant, il est réel. Donc c'est pourquoi, frère, ne vous découragez pas, ne vous méprisez pas, parce que ce ne sont pas des gens exceptionnels que Dieu utilise. Ce sont des gens ordinaires. Jésus a utilisé des pêcheurs de poissons ordinaires. Jésus a utilisé des taxeurs, des preneurs de taxes d'impôts, des gens ordinaires, les Matthieu. Il n'a pas utilisé, et pour utiliser Paul, il a fallu d'abord qu'il le brise pour en faire un homme ordinaire avant de l'utiliser. Sinon, le Seigneur veut des gens ordinaires, des femmes, des hommes ordinaires, des jeunes filles, des étudiants. Il veut des gens ordinaires. Qui vont manifester sa gloire et qui vont aider les autres à croire. Qui vont aider les autres à croire. Donc, les méthodes utilisées par Dieu sont des méthodes très importantes. Une fois, le Seigneur me dit à une dame qui travaille à la banque, son mari aussi est banquier, ils n'ont pas d'enfants. Et le monsieur est parti au tribunal pour divorcer. Nous avons fait un séminaire, elle est venue. Et ce jour-là, le Seigneur me dit de dire à cette femme-là, « Madame, cette nuit, parce qu'ils ont fait séparation de chambre, cette nuit, le Seigneur me dit de vous dire, faites tout pour dormir dans la chambre de votre mari. » Parce que le monsieur est tellement découragé qu'il veut divorcer parce que ça fait 7-8 ans qu'on n'a pas d'enfant. Et c'est comme en Afrique, comme une opprobre, parce que la belle famille fait pression pour que le monsieur prenne une autre femme. Il dit, cette nuit-là, moi je ne savais pas qu'ils avaient chambre séparée, je ne savais pas, mais le Seigneur me dit, dis-lui qu'elle dorme dans la chambre de son mari. Il dit, mais normalement elle doit dormir là-bas. Et non, elle m'a dit, nous sommes chambres séparées. Ah, donc c'est le Seigneur qui m'a parlé. Donc dormez là-bas. Et quand, après la réunion, elle est arrivée, son mari était déjà couché et elle a frappé à la porte de son mari. Son mari dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je vais dormir ici aujourd'hui. Son mari a dit, ah bon, c'est le pasteur Carambille, le fou là, qui t'a parlé. Hein? On m'appelait le fou parce qu'on dit, mais il raconte des histoires, ce monsieur-là. Il lave le cerveau des femmes. Et puis, c'est terrible. Et toutes les femmes de la ville courent là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est bizarre, cet homme-là. Elle dit, non. Elle n'a pas dit que c'est faux, mais elle n'a pas aussi confirmé. Mais elle dit, non, je vais dormir aujourd'hui. Le monsieur dit, bon, ok, de toute manière, j'ai posé la demande de divorce, c'est au tribunal. Bon, si tu veux dormir, tu dors. Mais ce qui est sûr, si ton Dieu est réel, je le saurai. Le lendemain encore, le Seigneur m'a dit, va dormir. Elle a fait cela. Un mois plus tard, elle est partie à l'hôpital. Il y a quelque chose qui s'est passé. Elle est partie faire le test, simplement le test. C'était positif. Elle est venue dire à son mari, est-ce que, bon, tu peux m'accompagner? Le mari dit où? Il est à l'hôpital. Il dit, mais pour faire quoi? On est déjà allé plusieurs, ça fait plusieurs années, on est allé, il n'y a rien. Il dit, non, accompagne-moi simplement, bon, parce que ma voiture est un peu... Ils sont allés, et puis ils sont allés devant les docteurs, les gynécologues. Mais les gynécologues disent, mais messieurs, votre femme est enceinte. Il dit, ah bon? Aujourd'hui, ils n'ont pas divorcé, ils ont plusieurs enfants. Ça, c'est la parole de connaissance. Vous comprenez? C'est pourquoi cette église-là, cette église dans laquelle vous êtes là, c'est une église du surnaturel, du miraculeux. Et prenez courage, écoutez ce que les gens font, ce que les pasteurs prêchent. Dites, Seigneur, nos responsables ont tous ces pasteurs-là, ils ont des dons. Nous aussi, nous voulons être participants de ces dons-là. Nous voulons que dans nos milieux ou à la maison, nous voulons être aussi des canaux de bénédiction pour nos voisins, pour nos camarades de service. Nous voulons être des bénédictions pour nos camarades et étudiants ou lycéens. Mais n'attendez pas que ce soit eux qui fonctionnent seulement. Vous allez non seulement alléger leur travail, lorsque vous allez commencer vous aussi à prier, vous allez voir qu'en venant, vous transporterez l'atmosphère spirituelle en venant à l'église. Et ce sera facile pour les pasteurs d'œuvrer parce qu'il y a une foi commune. Il y a une atmosphère qui est dans l'église qui fait que le pasteur n'a pas à se battre beaucoup pour percer, puisque vous déjà, vous êtes en accord. Si deux se mettent d'accord, vous voyez les choses et sont facilitées. Et ça va nous aider à progresser. Donc, nous continuons pour terminer, puis on va prier pour les différents cas. Mais tout cela est bien, après la méthodologie de Dieu. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'obéissance à la parole que Dieu nous a donnée. Si nous retournons à notre pauvre aveugle, maintenant, sa face est badigeonnée. Et on lui dit, Jésus lui dit, « Monsieur, ce n'est pas fini. Il faut aller maintenant jusqu'au réservoir de Siloé, vous l'avez là-bas. » Et le réservoir de Siloé, c'est on traverse la ville. Supposons que ce monsieur-là s'appelle Monsieur Jacques, l'aveugle. Tout le monde le connaît. Voici Monsieur Jacques qui passe, qui traverse toute la ville, avec un enfant devant lui qui le mène, puisqu'il ne voit pas, au réservoir Siloé. Et on demande à M. Jacques, bonjour. Il dit, oui, ça va. Mais qu'est-ce que vous avez? Mais vous n'êtes pas lavé le visage aujourd'hui? Il dit, non, c'est Jésus qui a mis la boue sur moi. Oh là là, ça c'est les sectes encore. Mais c'est pas possible. Le pauvre homme, il ne voit pas. Maintenant, on va lui faire une infection pire encore. Mais partout, les gens le saluent. Monsieur Jacques, où allez-vous? Je m'en vais au réservoir de Siloé. Pourquoi faire? Jésus m'a dit d'aller me laver le visage au réservoir de Siloé, je verrai. Il dit, depuis quand quelqu'un a vu au réservoir de Siloé? Vous voyez, frère? Il ne s'agit pas que Dieu agisse. Il faut, de votre côté, obéir maintenant. Et l'obéissance crée des problèmes. Par l'obéissance, vous amène à la confrontation des pensées et du regard des autres. Et ça, c'est difficile. C'est ça, non? Qu'un ingénieur en informatique se promène avec le visage badigeonné de chaud pour aller se laver dans quelle rivière? Lille. Et on lui pose la question, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais aller me laver parce que le pasteur Samir Peter Smith a badigeonné mon visage de peinture. Tout de suite, la police fait une descente. Mais messieurs, vous êtes une secte. Vous voyez, la pensée, le quand dira-t-on, le regard des autres bloque nos miracles. Ça bloque nos miracles. Mais si je m'en vais dire, personne ne me croira. Quand même, je suis une femme de bonne réputation. Jusqu'à présent, je n'ai jamais fait des choses aussi folles que ça. Dieu dit, ok, réputation pour réputation, tu la gardes, mais tu n'auras pas le miracle. Parce qu'il faut que tu meurs à ta réputation pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Il y a des moments, quand Dieu donne des paroles de connaissance à un pasteur, vous croyez que c'est facile? S'il vous donne des paroles de connaissance compliquées, avec des noms médicaux, donc que vous n'avez jamais entendu. C'est déjà arrivé à Samuel. Vous balancez ce nom-là, et puis vous demandez, personne ne se lève. Satan te dit derrière, t'as vu mon gars, cette fois-ci tu es... tu es passé à côté. Et le lendemain, la personne vient, c'était moi. Vous avez envie de gifler. Tu as fait perdre ma réputation hier, toi. Parce que les gens ont peur. La peur, le candidaton. Même ceux qu'on dit, vous êtes guéri maintenant. Vous avez reçu telle chose, vous êtes guéri. Mais les gens disent, c'est pas moi, peut-être c'est l'autre. Mais pourtant, ils savent. Ils savent qu'ils ont été touchés. Le papa a dit tout de suite, là, instantanément, les douleurs. Et la personne voit que les douleurs sont parties, mais elle dit, non, peut-être c'était un hasard. Hein. Mais on a... La mentalité du miraculeux, ça s'apprend. C'est toujours par un processus. Et quand on l'applique ainsi, ça devient facile. La première fois, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Dieu le sait. Dieu ne nous en veut pas. Donc, nous devons apprendre l'obéissance. Et c'est ainsi que ça s'est passé avec l'homme né aveugle. Ça s'est passé même chose avec Lazare. Quand, à la fin, Jésus est arrivé au tombeau de Lazare, Jésus dit, roulez la pierre. Ils ont dit, Marthe a dit, Jésus, nous t'aimons beaucoup, nous t'excusons pour ton retard. Mais, jusqu'à présent, on ne t'en veut pas, parce que tu es venu en retard, c'est bon. Mais ouvrir la tombe là, mais le gars est pourri. C'est très difficile de supporter. Déjà quand il est mort, on a déjà pleuré, mais de le voir maintenant gonflé. Mais Jésus, non, sois logique, laisse tomber. On ne t'en veut pas de toute manière, on ne t'en veut pas. Jésus dit non, Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Il dit, ah bon? Il y a la gloire de Dieu ici? Il dit oui. Bon, ils ont aidé Marthe. Marthe, ils ont roulé la pierre. Jésus a parlé à Lazare. Il a parlé. Et quand il a parlé, il dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Lazare est sorti, il était comment? Lié. Il leur a dit, c'est vous qui l'avez lié. Déliez-le maintenant. Moi, ce n'est pas mon rôle, ça. Moi, j'ai donné la vie. Vous devez délier les gens. Notre rôle en tant que pasteur, notre rôle en tant qu'ancien, nous amenons les gens à la vie. Mais Jésus amène les gens à la vie et nous, notre rôle, c'est de les délier parce que souvent, nous les avons liés par nos paroles et tout. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont délié. Alors, ce soir-là, je vais m'arrêter là et puis on va prier. Il est déjà 22h. OK. Le Seigneur dit, par exemple, et la troisième chose pour le prophète Élisée, Dieu va choisir 4 lépreux pour amener la délivrance. Est-ce que dans votre pensée normale, 4 lépreux peuvent apporter la délivrance? Mais Dieu choisit les choses faibles pour confondre les forts. Il choisit les choses viles pour confondre les sages. Il a choisi 4 lépreux qui ont amené le lendemain la farine, le blé, et l'officier du roi qui avait dit si Dieu pouvait ouvrir la fenêtre est mort, écrasé par le peuple. Alors frères et sœurs, Jésus nous dit, ils imposeront les mains aux malades. En mon nom, les malades seront guéris. Tout le monde sait qu'une main n'a aucune puissance par elle-même. Tout le monde le sait. Et tout le monde sait que l'onction d'huile, l'huile d'olive, c'est de l'huile d'olive. Elle n'a pas de puissance par elle-même. Mais Jésus a dit de oindre les malades en les oignant d'huile. Il dit la prière de la foi sauvera le malade. Et si il a commis des péchés, ses péchés lui seront pardonnés. Il dit voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades en mon nom. Les malades seront guéris. Alors bien-aimés frères, je ne suis pas médecin, ni généraliste, ni spécialiste. Le Seigneur me dit d'imposer les mains à un malade. j'obéis. Le Seigneur me donne une parole de connaissance, j'obéis. Le Seigneur me dit, oint d'huile, cette dame-là, je la oint d'huile. Mais ce n'est pas moi qui produis le miracle. Oui, bien aimé frère, c'est simplement ça. C'est pourquoi le Seigneur dit, lancez l'appel. Quiconque confesse que Jésus est sauveur, quiconque confesse qu'il est Seigneur et qui croit dans son cœur qu'il est mort, il est reçu d'entre les... Il a la vie éternelle. Comment on peut communiquer la vie éternelle, la vie de Dieu simplement en faisant lever quelqu'un qui lève sa main, qui dit oui, je crois, je confesse et il reçoit la vie éternelle. Mais pourtant, c'est ça qui nous est arrivé à nous tous. Oui ou non? Ou bien vous avez été sauvé par un ange qui est venu, qui a fait gris, 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 gris. Je ne sais pas, hein? Vous avez été sauvé comme ça? Non. Simplement par une parole. Le monsieur qui parlait, peut-être, il parlait avec des fautes. Mais ce n'est pas important. Quand il a lancé l'appel, vous êtes venu. Et arrivé chez vous, vous avez vu que mais, quelque chose s'est passé. Et aujourd'hui, c'est pourquoi vous continuez à venir ici. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, vous venez ici. Pourquoi? Simplement parce que quelqu'un a osé un jour dire que Jésus est mort à la croix de Calvaire, il a pris vos péchés, et que quiconque croit en lui, il est sauvé. Vous avez cru et vous êtes là. C'est si simple. Et compliqué pour les compliqués. Alors ce soir, c'est la même chose. On va prier pour, le Seigneur m'a dit, les gens qui ont des tumeurs, malignes ou non malignes, vont venir devant rapidement. On va les oindre d'huile. Vous sortez des rangs, vous venez. Et en même temps, qu'on attend ces personnes-là, et si vous êtes venus ici parmi nous ce soir, nous vous donnons l'opportunité, car c'est le plus grand miracle. Vous n'avez pas reçu Jésus encore comme sauveur et Seigneur, et ce soir, vous pouvez avoir la vie éternelle, la vie de Dieu, c'est formidable. Vous venez perdu, vous venez quelqu'un, et brusquement, vous sortez de cette salle-là avec la vie divine. C'est formidable, c'est merveilleux ça. S'il y a quelqu'un qui est venu ce soir, qui n'a pas encore ce Jésus, Christ, comme sauveur, qui lève la main là où il est simplement. Même s'il y a une seule personne, où vous êtes? Vous levez votre main et vous faites la prière et vous partez avec ce Jésus-là. Vous partez avec ce Jésus dans votre cœur. Levez bien la main. Y a-t-il quelqu'un? Oui? Levez bien la main. Quelqu'un qui n'a pas encore ce Jésus, qui veut ce soir-là recevoir. Voici, oui. Est-ce qu'il y a d'autres encore? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore? Ok. Bon, ceux qui ont levé la main, vous posez votre main sur votre poitrine parce qu'on est en retard un peu. Faut qu'on... mettez votre main sur votre poitrine et vous priez avec moi, tout juste là, en murmurant. En murmurant, pas besoin de crier. Dites, Seigneur Jésus, que les voisins les aident en priant la même prière. Ça fortifie les autres. Seigneur Jésus, je te remercie ce soir par ta mort à la croix du calvaire. Mes péchés ont été pardonnés. Ton sang m'a lavé et j'ai été réconcilié avec le Père. C'est pourquoi je crois tout mon cœur que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tu as ôté mes péchés. Et ce soir, je confesse maintenant par ma bouche que tu es Seigneur. Et en retour, je reçois la vie éternelle, la vie divine qui vient dans mon esprit. Et mon esprit est régénéré. Je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Dieu est mon Père. Je te remercie ce soir pour cette grâce que tu m'as faite. Amen.